Donc, je vais vous donner en quelques mots un peu la position du CEA vis-à-vis de l'EOSC et de manière plus générale vis-à-vis de la science ouverte et puis les données de la recherche. Et puis, effectivement, un peu notre vision vis-à-vis de l'EOSC et vers quoi pourrait aller l'EOSC ou en tout cas nos points d'attention, entre guillemets. Juste en termes introductifs, c'est bien insister sur le fait que la donnée, elle est vraiment au cœur des activités du CEA. Alors, le CEA est un organisme de recherche qui a un spectre on va dire, d'activités relativement large, hein, de la recherche fondamentale, mais aussi tout ce qui est des aspects technologiques, des aspects défense. Et par ce spectre d'activités extrêmement large, on a aussi des cas d'usage extrêmement variés en termes d'utilisation, d'ouverture de la donnée. Et quand je parle de données, c'est pas que de la donnée au sens brut du terme, hein. Il y a aussi tous les aspects publication, mais aussi code source associé. Et donc, on a une très, très grande variété aussi, effectivement, de cas d'usage et de la plus grande ouverture possible de ces données-là jusqu'à la plus grande protection possible de ces données-là. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que le CEA est le producteur de données au travers soit d'infrastructures de recherche ou de. Alors maintenant, on dit plus TGIR, on dit IR étoile, mais aussi au travers de grandes installations expérimentales. Hein, donc, alors que ce soit dans le domaine de la santé, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a le CATI dans le domaine de la neuroimagerie, France Génomique pour la génomique, Profi, MetaWeb, etc. Ça a été cité notamment sur l'infrastructure qui se monte là autour de la neuroimagerie et des neurosciences e-brains dont le CEA est coordinateur. Et puis, effectivement, aussi toutes les grandes installations expérimentales, les infrastructures de recherche dans le domaine de la physique, physique fondamentale, astrophysique, physique des hautes énergies, etc. Le CEA, il est aussi partie prenante, donc ça c'est pour la partie production, mais il est aussi partie prenante du traitement, parce que c'est bien beau de produire les données, mais il faut pouvoir les gérer et effectivement les traiter et les remettre à la disposition des communautés. Donc, typiquement, on fait partie de la grille mondiale du traitement des données de la physique des hautes énergies du LHC, tout ce qui concerne aussi toutes les données climatiques avec les exercices internationaux autour de la prédiction climatique, les exercices CEMIP, etc. Et on a aussi un certain nombre enfin, essentiellement une grande infrastructure de calcul, de stockage et de traitement de données qui est située au TGCC, sur lequel, effectivement, on appuie beaucoup de nos travaux. Ce qui est important aussi de savoir, et ça apparaît de plus en plus, c'est qu'on observe de plus en plus des nouveaux usages dans l'exploitation de la donnée et on une mixité de plus en plus importante entre, on va dire, sciences du calcul et sciences des données. C'est vraiment deux mondes qui fusionnent véritablement. Bon, je sais qu'autour de ces deux dernières journées, souvent, il y a eu pas mal de remarques autour d'un côté le HPC, d'un côté le traitement de données, etc. Mais je pense que les communautés de recherche vont forcément pousser à ce rapprochement parce que les cas d'usage viennent des cas d'usage scientifiques et forcément on sera obligé d'y aller. Juste à titre d'exemple, là, on vient de lancer cette année sous la houlette du haut-commissaire à l'énergie atomique un programme doctoral mixant justement tout ce qui est sciences du calcul et sciences des données. Alors on va parler de jumeaux numériques, etc., mais vraiment faire un lien entre données observationnelles, données expérimentales, et comment toutes les technologies autour du numérique, que ce soit de la simulation, de l'IA ou du traitement de données, permet de faire un lien beaucoup plus important entre ces données-là et l'apport du numérique. Donc, du fait de tous ces éléments-là, on progresse assez rapidement sur cette prise en compte globale au niveau de l'organisme, de comment on peut mieux gérer cette problématique autour de la science ouverte et des données ouvertes. Donc, on est en train de mettre en place progressivement une gouvernance autour de la donnée, que ce soit par des rôles de DPO, de CDO, etc., mais aussi la mise en place de plans de gestion de données à l'échelle de l'organisme. Et on est en train aussi de réfléchir sur la mise en place de notions de data catalogue à l'échelle de l'organisme et qui soient en lien, bien sûr, avec l'ensemble des communautés, puisque ça a été mentionné aussi. Je pense qu'effectivement, il faut s'appuyer sur des communautés qui ont une très très longue expérience de cette gestion des données, de cette ouverture des données, et il faut faire ça en bonne intelligence autour de ça. On a mis en place aussi un certain nombre d'infrastructures orientées données. Bon, j'ai cité comme ça le TGCC, mais on a des infrastructures entre guillemets thématiques. Notamment, on participe à l'infrastructure européenne Phoenix, qui regroupe un certain nombre de tiers zéro européens orientés calcul, mais qui développent désormais maintenant des services orientés données. On est en train de mettre à place aussi un cloud dédié aux données de santé, toujours au TGCC, et puis des infrastructures un peu plus historiques, notamment autour du traitement des données du LHC ou des données de neuroimagerie avec l'infrastructure CATI. Donc clairement, on s'intègre résolument dans cette démarche nationale et européenne autour de l'open data et de la gestion pérenne des données. Souvent, il y a un raccourci entre ouverture et finalement open bar, j'ai envie de dire, mais on essaye de faire passer le message effectivement que c'est extrêmement important. C'est pas forcément parce que on n'a pas vocation à ouvrir complètement nos données qu'il faut pas s'en occuper. Et donc il faut absolument pas oublier cet aspect-là. Et pour nous, l'open data, c'est avant tout de gérer proprement ces données, et toute la notion de métadonnées, de la pérennisation, de savoir quelles données on conserve, quelles données on ne conserve pas, et finalement, quelles données on ouvre, quelles données on n'ouvre pas. Donc, on veut vraiment s'inscrire, nous, CEA, dans ce cadre européen de l'EOSC. Hein. Donc, on a adhéré à l'EOSC Association, et on essaie de participer le plus activement possible, de manière la plus constructive possible, à la structuration de l'EOSC français. Sur les enjeux pour nous vis-à-vis de l'EOSC, c'est vrai que c'est fondamental, ça a déjà été dit, mais que le partage des données et leur croisement permettent de faire progresser la recherche scientifique et ça ouvre véritablement des opportunités d'innovation et de développement économique. Ça, c'est absolument indispensable, hein, sur tout ce qui est transparence et reproductibilité de la recherche. Tout ce qui est ouverture et interopérabilité des données, c'est une autre façon de dire que c'est en gros les principes de fer. Des aspects aussi qui sont effectivement extrêmement importants sur un certain nombre de sujets, la mise à disposition de services et d'infrastructures qui soient souveraines et de confiance, avec des services orientés données associés. Je pense que ça, c'est un élément extrêmement important pour aussi effectivement faire adhérer toutes nos communautés recherche, et pas que recherche, mais aussi tout ce qui est l'aspect industrie, et ça a été notamment mentionné avec Gaia-X. Et certainement, et ça Jean-Yves en a parlé aussi, l'opportunité de développer des écosystèmes publics-privés autour de la donnée et de services, en sachant qu'effectivement on a ce principe de base, hein, qui est ouvert autant que possible et puis fermé autant que nécessaire. Et ça c'est extrêmement important parce qu'on a tout un tas de projets avec des industriels qui sont orientés autour de la donnée et les industriels n'ont pas vocation à ouvrir toutes leurs données. Donc, il y a un aspect qui est extrêmement important et qui a été mentionné aussi, hein, c'est le partage des connaissances et des bonnes pratiques. Il y a vraiment une acculturation des communautés à faire et un accompagnement. Au-delà de l'acculturation, il y a aussi l'accompagnement des communautés. Il y a 3-4 ans, on avait lancé une grande enquête pour la sensibilisation des communautés de recherche du CEA autour de la bonne gestion des données. Ça a très bien marché et effectivement, mais tout de suite, les retours qu'on a eus, c'est « mais qu'est-ce qu'on fait de nos données? Comment on peut nous aider ?» etc. Donc, cet aspect-là d'accompagnement et de formation de ces communautés à la gestion propre des données, c'est extrêmement important. Il y a un autre aspect aussi qui nous semble primordial, c'est que l'EOSC doit démultiplier les opportunités sans imposer des freins trop normatifs. Il faut faire attention aussi à ce que, donc ça a été noté, hein, la définition d'un minimum nécessaire pour la réussite de l'EOSC. Il faut faire attention aussi que il ne faut pas imposer trop de normes donc le minimum de normes nécessaires entre guillemets pour assurer l'interopérabilité non seulement des données mais des infrastructures, mais il ne faut pas que ça se transforme dans un carcan où finalement ça empêcherait les communautés ou les infrastructures d'y adhérer. C'est clair aussi que ça doit, et c'est lié, hein, l'EOSC doit répondre aux besoins de toutes les parties prenantes, que ce soit public, privé, et certainement ne pas être fait hors sol, et ça je pense que l'EOSC en a pris très très largement conscience, c'est-à-dire qu'en fait toutes les parties prenantes doivent faire partie de la gouvernance et de l'EOSC, et effectivement cette constitution et cette création de l'EOSC doit être à l'écoute des communautés qui seront fournisseurs des services, fournisseurs des données et utilisateurs de cet EOSC. Et enfin, le dernier point, c'est au niveau du modèle économique, et ça aussi Jean-Yves en a beaucoup parlé. Donc, il faut être vigilant sur assurer la soutenabilité de l'EOSC. On voit souvent qu'il y a des financements qui sont faits sur des infrastructures. Et après, la problématique souvent, c'est d'arriver à assurer la soutenabilité dans le temps de ces infrastructures-là. Donc, ça va être effectivement primordial pour l'EOSC. Et donc, lié à ça, le bon niveau de valorisation des données qui seront produites, avec une ouverture et une gratuité, entre guillemets, pour les communautés recherche, mais bien s'assurer aussi qu'on est capable de valoriser les données quand il y a de la haute valeur ajoutée. Et puis, effectivement, d'être attractif pour tout ce qui est tous les producteurs de données et les IA stockant les données et hébergeant les services. Et donc, ça, c'est extrêmement important aussi au niveau de ce modèle économique pour que les producteurs de données aient la volonté de mettre leurs données via les OSC, en tout cas de les ouvrir via les OSC. Et il faut qu'ils y trouvent leur compte et leurs avantages. Et pareil sur les IA infra, et qui vont finalement héberger toutes ces données et héberger l'ensemble de ces services. Voilà, je vous remercie beaucoup du temps que vous m'avez accordé.
Merci beaucoup, Christophe.